dans un temps particulier. Et Pasteur Luc, quand il m'a appelé, il m'a demandé pour remplacer le pasteur Lucier. Ben, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais on était déjà dans le jeûne. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que j'apporte? Et j'étais en larmes devant le Seigneur. Et dernièrement, je pleure beaucoup devant Dieu. C'est pas, un homme, ça pleure, hein, monsieur? Allô? C'est bon pleurer. C'est bon pleurer. Ça nous montre notre faiblesse. Ça nous montre notre, notre faiblesse, comment la chair peut être faible devant Dieu. Et dans ce moment-là, j'ai entendu une petite voix qui est venue pour vous ce matin. Je crois que ça va être un message très prophétique parce que j'exerce beaucoup dans le prophétique également. Et j'essaie d'être prudent, mais ce matin, je ne suis pas capable. J'ai quoi qui brûle, j'ai quoi qui est là. J'ai de quoi qui est venu très, très fort. Et j'ai emporté même une petite bouteille d'huile à la fin. Ceux qui auront besoin de prière, qui auront besoin de se reconsacrer à Dieu. Je pense que l'Église, on a besoin de retrouver notre ferveur. Allô? On vient pas à l'Église dimanche matin parce que c'est une messe. On vient à l'Église le dimanche matin parce qu'on veut rencontrer le Seigneur. On vient à l'Église parce qu'on a soif d'être visité. On vient à la soif parce qu'on veut voir des gens sauvés. On vient à l'Église parce qu'on veut que ça change. En tout cas, moi, ça, c'est mon cœur. Je ne sais pas si c'est le bon. Moi, c'est le mien. J'ai toujours été animé par cela. Et tant que je vivrai, je vais en déplaire à certains, mais c'est ma vie. C'est comme ça que je veux la vivre. Passionné. Dieu recherche des passionnés. Et la passion, elle dérange. Jésus était passionné, il s'est fait déranger. Hein? Et il a goûté dans sa vie terrestre. Mais emporter un bon message pour l'âme. Alléluia! Un bon message pour l'esprit de l'homme. Et ce matin, j'aimerais vraiment parler de retrouver sa ferveur. Peut-être que Nana m'a dit, « Pasteur Serge, je vais être peut-être un peu serré. » Vous me connaissez de toute façon avec le temps que je viens. Mais un matin, je veux parler cœur à cœur. Un cœur à cœur avec vous. Un cœur à cœur, qu'est-ce que je vis également à travers ma vie spirituelle? Un cœur à cœur, comment que Dieu change les situations, comment que Dieu change nos destinées. Alléluia! Et on a besoin de revenir à la base de notre vie chrétienne. Et ce soir, si vous êtes capable également d'être là, on va parler, si tu as une vision de la part de Dieu, où tu veux l'amener à la destinée, viens ce soir, on va parler, c'est quoi emporter une vision dans votre cœur? C'est quoi Dieu veut? Et si Dieu a mis quelque chose dans ta vie, c'est parce qu'il veut que tu l'amènes au bout. Amen. Alléluia! Et ce soir, venez entendre le message ou que Dieu veut aussi parler. Donc, je m'attends, je dis à Manon, aujourd'hui, hier, on montait, je dis, Manon, mon cœur brûle. Mon cœur brûle. Mon cœur brûle pour vous, mais mon cœur brûle pour Dieu aussi. Donc, on va regarder ça matin. Si vous avez votre Bible, on va aller sur PowerPoint. Deuxième roi, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Retrouver sa faveur, c'est le titre de ce message ce matin. Dans Deuxième roi, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. » Il dit, « Emporte-moi un plat neuf et mets-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Ils allaient vers la source des eaux et ils jetaient du sel. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'anéantis ces eaux, il n'en proviendrait plus de mort, ni stérilité. » Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcée. Seigneur, moi je veux te dire merci parce que tu nous aimes tellement. On oublie tellement cet amour que tu as pour nous. Seigneur, on veut être touché. On veut être aimé, mais on veut s'approcher de toi aussi. Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, l'action de grâce. Tu es digne, Seigneur, que nos bouches te célèbrent. Seigneur, ce matin, c'est le message. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit, qui va parler. C'est toi qui changes les cœurs, ce n'est pas moi. C'est toi, dans ton amour, qui sais comment nous changer, nous transformer. Que cette parole, ce matin, j'espère de tout cœur, Seigneur, que ce sera une parole qui va rafraîchir, qui va nous emmener à la source d'eau vive. Père, bénis ton peuple, bénis ton serviteur. Et Seigneur, qu'on puisse dire, on t'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Jéricho, si on fait l'histoire du texte, la ville de Jéricho, vous savez, c'est une ville qui était une forteresse et qui est tombée sous la main de Josué lors de la conquête du pays de Jéricho, de Canaan, c'est-à-dire, et cette ville est devenue un lieu de malédiction, un lieu où que c'était prononcé cette ville. Josué a dit dans 6:26, « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Donc, le prophète Josué a donné une parole forte, une parole de malédiction pour cette ville. Et 6 siècles plus tard, on retrouve le prophète Élisée à la ville et qui est le successeur du prophète Élisée. Malgré la malédiction qui a été donnée, il y a un homme du nom d'Éliel a défié et a reconstruit la ville de Jéricho, mais cet homme a perdu ses 2 enfants à cause de la malédiction qui a été prononcée. Mais malgré cela, il y a des gens qui demeurent à Jéricho, il y a des gens, malgré la malédiction, malgré que c'est sèche, que l'eau est mauvaise, que c'est stérile, il y a des gens qui vivent là. Et dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Donc, les gens de Jéricho sont en train de dire à Élisée, « Notre séjour ici est bon. C'est bon de vivre à Jéricho. » Mais malgré la malédiction qui pèse contre cette ville, malgré que l'eau est mauvaise, malgré que c'est stérile, il dit, « On veut rester ici. » Mais il dit, « C'est impossible qu'on reste ici. On n'a rien. Il n'y a plus d'eau. Tout est sec. Le contexte n'est pas favorable que le peuple reste là. » Mais c'est comme dire, ces gens-là, quand ils ont été vers Élisée, ils disaient, enlève la malédiction sur la ville. Les gens aujourd'hui recherchent l'Église. Les gens recherchent aujourd'hui la vérité. Alléluia. Les gens ont été vers le prophète Élisée. C'est comme nous dire, y a-t-il une Église qui va répondre à nos besoins? Alléluia! Les gens cherchent aujourd'hui des solutions. Beaucoup de gens vivent une vie de Jéricho. Le cœur de l'homme est malade. Ils ne trouvent pas de solution. Comment aller s'abreuver à la source d'où vivent? Soyons l'Église qui va apporter la solution dans notre monde. Alors, soyons ces gens qui ont soif de donner la parole de Dieu. Que les gens viennent vers nous. Est-ce qu'on a quelque chose à donner? Alors, ces gens-là n'ont pas de solution. Leur crise, ils sont en crise, je pourrais dire. Et ils ont soif, alléluia. Les gens de notre société cherchent la vérité. Il y a des gens qui ont soif dans ce monde. C'est pas tous des imbéciles. Il y a des gens qui veulent connaître Jésus. Soyons remplis de compassion. Mais pour cela, il faut être soi-même alimenté à la source de vie. Jean 7, versets 37 et 38, des textes que vous connaissez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus compare ici l'eau au Saint-Esprit. Qui compare l'eau comme un courant d'eau vive. Le Saint-Esprit désire nous rafraîchir. Combien le croient? Soyons honnêtes un matin, là. Combien croient que l'Esprit de Dieu veut nous rafraîchir? Nous ne sommes pas appelés à faire de la religion, mais nous sommes appelés à vivre la vie de l'Esprit. Une vie remplie de lui, une vie remplie d'amour, une vie remplie de compassion, une vie où on va resplendir la joie dans le monde. Alléluia! Ma chair a besoin d'être arrosée. J'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin de l'affection de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Quand nous retrouvons à la source, on peut déverser nos cœurs sur les autres. On est beaucoup plus sensible. L'amour vient nous alimenter pour les gens parce que vous avez la vie de l'Esprit dans votre vie. L'eau représente le Saint-Esprit. C'est un symbole de rafraîchissement. Soyez honnêtes avec vous ce matin. Combien ont besoin d'être rafraîchis? Combien? Je vais enlever mon manteau, comment ça va être chaud, là? Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu désire rafraîchir. Et je crois que la source d'eau vive, elle est présente. Jésus a dit dans Apocalypse 21:6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui soit, je donnerai de l'eau, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Nous voyons l'homme qui est invité à aller se ressourcer avec Dieu. Sans la vie de l'Esprit, on devient sec, on devient stérile. Nos vies à l'intérieur ne portent pas les fruits. L'eau, son rôle, c'est de nous rafraîchir. Quand il fait chaud l'été, où vous allez? Si vous avez des piscines, vous allez sauter où? Dans la piscine. Ou vous allez au lac, vous voulez être rafraîchi. La vie de ce monde, de notre monde, a perdu beaucoup son épanouissement. Le monde n'a plus la joie qu'on avait il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde. Écoutez les nouvelles, c'est la violence, les gens ont peur de se promener à Montréal, même le soir, les filles ont peur de se faire violer dans les écoles, c'est rendu violent sur violent. Le monde a peur aujourd'hui. Le monde vit dans la stress, dans l'inquiétude. Notre monde a besoin de découvrir la vraie source de vie. Jésus est venu donner sa vie. Jésus offre un nouveau commencement, une route nouvelle. Jésus, quand il est entré dans le désert, Luc chapitre 1, verset 4, mes versets que j'aime. Luc chapitre 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus ici est rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Il y a eu une lutte là, dans le désert, il y a eu quelque chose, il y a eu un combat avec l'ennemi. Et Jésus a servi de la parole, il est la parole incarnée, il est le Logos, la parole révélée. Et donc, il y a eu ce combat. Mais après le combat, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu. Là, l'Esprit n'est plus juste en lui, il est revêtu. L'onction qui est venue se reposer sur la vie de Jésus. Un revêtement de puissance. Et c'est le mot dynamis, la puissance qu'ils ont reçu les apôtres à la Pentecôte. Survenant sur qui? Sur vous. Pourquoi l'onction se dégage? Parce qu'elle est sur vous. Quand vous priez avec des malades, ils sont guéris. Pourquoi? Parce que l'onction est sur vous. Ça fait beau dire, il vit en moi, mais il doit plus que ça. Il doit vivre sur vous pour les gens voient les signes et les miracles et les prodiges. Il est sur vous. Alléluia. La puissance de l'Esprit de Dieu, c'est la capacité, c'est la force, le pouvoir, alléluia, d'être puissamment capable de faire les signes et les miracles à la vue de notre société pour démontrer qui est le roi, mais de démontrer également notre amour à une société qui se meurt. Alléluia! Et c'est pourquoi que Jésus cite dans Luc 4, verset 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est où? Sur moi! » Et qu'est-ce qu'elle fait, l'onction? Il m'a oint pour quoi? Annoncer quoi? Une bonne nouvelle! Il m'a envoyé pour quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pourquoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pourquoi? Pourquoi vous êtes envoyé? Voyez, l'Église, c'est pas un lieu pour dormir. C'est pas juste le dimanche matin, l'Église. L'Église, c'est quelqu'un qui est actif régulièrement. Par notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit vit en moi et il est sur nous. Deuxièmement, Jésus nous a promis cette expérience, une deuxième expérience, celle de la Pentecôte, ce revêtement de puissance, le même déversement qui était sur Jésus en tant que peuple de Dieu. Je le dis ce matin humblement, il faut entrer dans sa destination de son héritage spirituel. Dieu nous a laissé un héritage. Et l'héritage que nous avons, c'est d'aller et faire des disciples dans toutes les nations. C'est votre travail. C'est le mien. C'est pas juste les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. C'est votre travail. Un chrétien qui ne témoigne jamais, c'est un chrétien qui est rendu fade. Alléluia. Tu dois démontrer qui tu sers. Tu dois dire qui est mon roi. Tu n'as pas peur de prendre position pour le royaume de Dieu. Allô? C'est le temps de dire, on veut un réveil, mais des réveils tranquilles, j'en connais pas. Des réveils que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent tout en langue. Alléluia! Nous sommes un peuple apostolique et prophétique. Un peuple qui est appelé à parler de part de Dieu, c'est un peuple prophétique, un peuple apostolique qui suit l'enseignement apostolique délégué par Jésus. Alléluia! Par les apôtres, c'est notre fondation. C'est notre fondation. Qu'est-ce qu'on fait qu'il y a eu des grands réveils dans le temps des apôtres? On aime prêcher le livre des Actes. Mais quand c'est le temps de le vivre, on dirait qu'on n'est pas capable de le mettre en action. On aime les histoires sans accomplir la destinée. Et le rôle, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, c'est la proclamation. C'est le message de l'Évangile. C'est de répondre aux besoins des autres. Vous êtes appelés à déverser l'amour de Dieu sur la vie des gens. L'onction nous a moins pour apporter des solutions à notre société. Nous avons été immergés dans la plénitude du Saint-Esprit. La totale. Vivez-vous la totale? Êtes-vous dans la totale? Alléluia, si on est dans la totale, donc on va démontrer qui qu'on est. On va être vrai. Donc, nous sommes appelés à marcher dans cette direction-là. Les gens qui sont tournés vers Élie, ils veulent de l'eau. Alléluia, ils ont soif. Comment dire? C'est comme dire, est-ce que l'Église peut répondre à mes besoins? Allô? Les gens vont dire, l'Église, vas-tu répondre à certains besoins dans ma vie? Les gens, c'est ça qu'ils recherchent aujourd'hui. Une Église qui répond aux besoins de la société. Alléluia! Les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ont des besoins moraux, spirituels. Des gens ont des besoins. Est-ce qu'on va être capable de répondre à leurs besoins? Et les gens vont voir Élie. Élie, tu peux-tu répondre à nos besoins? Alléluia! Les gens ont des besoins, mes amis. Notre société se mord à elle-même. Même si, vous savez, la question que j'ose poser, est-ce qu'on a encore le feu? Est-ce qu'on a encore la passion? Est-ce que notre zèle est encore présent? Notre consécration, est-ce vraie devant Dieu? Comment pouvez-vous abréger la vie des gens si nous-mêmes ne sommes pas abreuvés? Si la vie des gens de cette ville avait besoin parce qu'ils ont vu un homme de Dieu qui était capable de répondre à leurs besoins, la vie de l'esprit ne se rendait pas dans leurs âmes. Notre société vit avec des blessures, de graves déceptions, de graves frustrations, de graves amertumes, de grands échecs. Ils se sentent captifs, ils se sentent tristes, ils se sentent enchaînés. Les gens cherchent l'aide, les gens cherchent la vérité. Et c'est pourquoi ils se tournent vers cet homme. Ma question que je vous pose, je me suis posé, puis j'ai fait mes examens, est-ce qu'on répond aux besoins de notre société? C'est des questions d'Église ce matin. Est-ce qu'on le fait ou nous sommes indifférents à la souffrance des gens? Un petit coup de téléphone à quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, comment ça va mon frère? Ou de prier, le Seigneur te met à cœur de prier pour quelqu'un, ou d'aller la voir faire une visite, de sortir de notre confort, puis prendre un peu de temps avec les gens. Allô? C'est votre travail, l'Église, d'entretenir votre feu. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour donner la soif aux gens. Si nous voulons devenir un peuple de puissance, un peuple de moisson, un peuple de victoire, c'est de retrouver la ferveur de Dieu. Allô? J'aurais aimé entendre plus d'amen que ça, là, mais... Je dirais... Le cœur du message, je vais rentrer dedans, c'était mon intro. Je dirais ce matin, si on veut vivre vraiment une vie de l'esprit, c'est de vivre une Pentecôte renouvelée. De renouveler la Pentecôte que Dieu nous a donnée. Le réveil commence par soi-même. Attends pas que l'autre te réveille tout le temps, tu vas te réendormir. Le vrai réveil, ça commence par soi. Le vrai réveil commence par une réelle repentance. Le réel réveil commence par un pardon d'avouer nos péchés et nos échecs devant Dieu. Un réel réveil dans nos cœurs, c'est être capable de dire « j'ai échoué, mon cœur est dur, que j'ai besoin de changement intérieur. J'ai besoin de retrouver la faveur de Dieu. Pour ma propre vie, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Mon cœur a soif de Dieu. Et comme vous, je passe mes temps. Je dis souvent, Seigneur, change ma vie, Seigneur, je suis loin d'être parfait, je veux te ressembler, Seigneur, sonde-moi, émonde-moi, purifie-moi, brise ton âme, alléluia, je veux te ressembler, Seigneur, je veux avoir la passion que tu avais, je vais... Alléluia. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je veux plus être le même homme, dis avec moi, je veux plus être la même personne. Je veux du changement dans ma vie. Alléluia! L'Église, c'est beau le dimanche. Oh, on est tous beaux, mais après, qu'est-ce qui se passe? On retourne tout chacun chez nous, puis on va manger notre petit dîner, puis on retourne dans la routine. C'est quoi l'Église? Hein? Seigneur, touche-moi. Seigneur, transforme-moi. Donne-moi plus d'amour, plus de compassion. Êtes-vous satisfait de vos temps de prière? J'ai réalisé cet hiver, dans des temps, je sortais de la... J'étais frustré mes temps de prière. J'étais frustré mes temps de prière. Je vous le dis, là, le téléphone à côté de moi, l'ordinateur à côté de moi, mes idées balottent d'un bord, puis de gauche à droite, ça tient un petit Facebook qui rend ouf, dérangé. Puis tu sors du temps de prière, tu dis, viens de perdre mon temps. Je sortais de là frustré. Amen. Allô? Tu ne chercheras pas la présence de Dieu de cette façon. Vous savez, une prière, vite, vous attirez pas la présence de Dieu avec du vite. Allô? Je pense pas, en tout cas. Le cœur change quand la présence du Saint-Esprit nous visite. Je me souviens des soirées de réveil qu'on a vécues, où j'étais invité dans des soirées de réveil, et on a vécu des temps... fort. Je ne parle pas des temps de débordement là, où ça finit plus, là, ça n'a rien à voir avec ça. Ou des temps où que j'ai vu des gens, en prêchant, ça pleurait. Des gens venir à l'hôtel sans faire d'appel. Ou j'ai vu des temps qui criaient à Dieu, « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, je ne suis plus capable. » J'ai vu des temps où j'étais bouleversé dans la prédication. Je pleurais et j'avais mon mouchoir à côté de moi. « Seigneur, c'est toi qui travailles, ce n'est pas moi. » Tu comprends? Tu as besoin de vivre la présence de Dieu. Tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu, sinon c'est sec à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Prenez le temps de se déverser dans la présence de Dieu. Depuis quelques mois, j'ai senti, puis je disais souvent à Manon, faut que je retrouve la présence de Dieu d'une autre façon. Puis j'ai entendu une voix qui me dit, Serge, approche-toi. J'ai compris que Dieu m'appelait au jeûne, de jeûner davantage. Au début, Manon, tu t'en souviens, on était sur le jeûne, puis on jeûnait, puis on donnait notre part avec ça. Les années sont venues, les problèmes sont arrivés, les difficultés sont arrivées, puis on avait des problèmes à gauche, des problèmes à droite. L'Église, c'est un lieu de problèmes. Puis on était envahis de problèmes, puis on oubliait de jeûner, puis s'approcher du cœur de Dieu. La maladie est arrivée, puis encore. Là, Dieu dit, approche-toi. Allô? L'Église, on ne jeûne presque plus aujourd'hui. On aura besoin de retrouver la faveur de Dieu. Une pratique peu existante. Alléluia, on a besoin de la présence de Dieu. Sans cette présence, on est foutu, mes amis. On a besoin, l'âme a besoin de restauration et de guérison, de retrouver son amour premier. Souvenez-vous avec Élie, alléluia, un combattant de la foi, un homme de Dieu puissant, prophète de Dieu, Élie, avec les serviteurs à Baal, puis astéré, puis il était fatigué, c'est un burn-out. Il a passé un temps dur, combattu avec les ténèbres. Et dans cette grande fatigue, cet homme est retiré dans une caverne. Et ce soir, je vais en parler. Mais Dieu s'est présenté à Élie. Nos âmes peuvent souffrir. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur veut encore parler. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut mettre encore des dépôts dans notre vie. Et Dieu dit, dans 1er Roi, chapitre 19, versets 11 et 12, l'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a un vent fort, violent, qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12, et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure. » Dieu a montré le caractère à Élie dans cela. Un homme de feu, un homme de puissance, où ça passe, ça tremble. Dieu a montré le caractère. Mais il dit là, Élie, j'ai besoin de te parler. C'est dans le calme. C'est dans le calme. On a besoin du calme de Dieu. On a besoin d'entrer dans la présence et écouter ce que l'Esprit veut nous dire. La vie peut être remplie bien de combats pour certains. Élie avait besoin d'être ressourcé. Dieu a vu la souffrance, Dieu a vu le désarroi. Et Dieu va lui parler, Dieu va l'encourager. Il va lui donner des directions dans sa vie. Et Dieu lui a parlé dans un doux murmure. Et c'est ça, je vais en parler encore. Il est le Dieu de notre paix. Ésaïe 35, c'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Amen. Il faut dire, je mets le pied sur le break un matin, puis je m'en vais dans ma chambre de prière. C'est le temps de dire que mes idées, que tout ce que j'ai ici à faire, j'ai ça à faire, mon agenda est plein le matin, puis j'ai ici, puis j'ai ça, puis tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu vas aller souper, puis tu as encore des idées, puis des idées, puis des idées. Où est la présence de Dieu? Comment veux-tu marcher dans l'onction de Dieu? Puis si on bouge moindrement, bien encore là, les critiques vont venir. Alléluia! Nous vivons dans un monde où tout va vite. Je dirais qu'on a même de misère à retrouver notre souffle. Tout va vite, comme Marthe. Hein? Que Jésus est là, puis Marthe s'occupe des choses de la vie, puis Marie, elle est arrêtée, elle a choisi la bonne part. Il y a des rendez-vous divins que nous manquons parce qu'elle ne nous présente pas de bout du nez devant le Seigneur. Oh oui, dites-le un gros amen, là. Il y a des rendez-vous qu'on manque parce qu'on n'est pas là. Attendez pas les paroles des connaissances des prophètes. Dieu veut vous parler à toi personnellement. S'il y a un prophète qui vient, qui te donne une parole, ne prends-la, mais cours pas après ça. Cours après qu'est-ce que Dieu veut te dire, toi. Et quand Dieu parle à toi, ça change. Alléluia. Parce que nous prenons le temps d'être avec Dieu. Alléluia. Tes idées, vous savez, je dis souvent, prie-tu, mes idées sont ailleurs. Ma chair est faible. Nous devons faire comme cette femme. Marc, Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'alfade qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'elle était à la table, elle répandit le bon parfum sur sa tête. Cette femme qui offre un sacrifice de grand prix. Ça lui a coûté quelque chose. Allô? Ça lui a coûté quelque chose. Non, elle veut dégager le bon parfum. Elle n'a pas regardé au prix, elle n'a pas regardé comment ça va lui coûter. Elle voulait juste être dans sa présence. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Être dans sa présence? Je parle cœur à cœur avec vous, là. La première chose, quand on finit le matin, nous, quand on prend le café, là, je m'en vais au bord de la rue. Au bord de la rue, c'est mon bureau. Tu veux me trouver, je suis au bord de la rue. Première chose que je fais, je mets mon ordinateur, je mets de la musique. Je ferme l'écran, c'est juste de la musique. Je téléphone, je le mets de côté. Je prends juste un temps de louange, juste un temps d'adoration. Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu? Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas le temps, mais il y a pas mal de retraités ici qui préparent le temps. Allô? Donc, prends le temps. Poursuis la présence de Dieu. Poursuis-les. Jésus aime quand vous le poursuivez. Cette femme, elle aime. Elle pleure devant Jésus. Elle veut toucher Jésus. Elle touche Jésus. Ses larmes tombent sur ses pieds. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Paul, comment il a été changé, transformé. 1 Jean 1:1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché, concerne la parole de vie. La parole de vie, alléluia! Ils ont été touchés par le Seigneur. Quand nos vies sont touchées, l'amour de Jésus vient. Puis je vais aller plus loin encore. Il doit y avoir des changements. Tous les disciples qui ont suivi Jésus sont morts pour la cause. L'amour de Dieu, la première chose qu'elle fait dans une vie, elle nous transforme. La première chose que Dieu fait dans une vie, c'est la transformation. Moi, quand j'arrivais au Seigneur, ma coke, mon hache, mon pape, mon pote, puis tout ont toutes parties là. Les bouteilles de rhum, puis les bouteilles de ci, puis les bouteilles de ça, puis les bouteilles de bière, ils ont toutes disparu. Une transformation. Je vais commencer à voir le soleil. Je dis, mais il est donc bien beau, le soleil. Mes marins me disaient, Serge, tu n'as pas les yeux de la même couleur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il doit y avoir une transformation dans notre vie. Sinon, posez-vous la question, pourquoi on ne comporte pas de fruits? Pourquoi il n'y a pas de changement dans nos vies? Allô? Pourquoi on se bat toujours dans les mêmes combats? Non, mais réflexion ce matin. Cette femme est amoureuse de Jésus. Son cœur est touché. On doit écouter l'Esprit de Dieu. Tant que le peuple de Dieu désire marcher avec Dieu, ça va bien aller. Sinon, ça ne va pas bien. Faites comme il dit. Alléluia. Écoute ce que Dieu a à lui dire. Si nous voulons, deuxièmement, trouver une Pentecôte renouvelée, il faut déterrer nos puits remplis de sable, mis par l'ennemi dans nos puits. Abraham, le père d'Isaac, avait creusé beaucoup de puits, vous connaissez l'histoire. Et il y avait beaucoup de serviteurs, il y avait beaucoup d'animaux également, il fallait qu'il y ait de l'eau, sans eau, on ne vit pas. Et les Philistins avaient rempli les puits d'Abraham après sa mort, parce qu'ils veulent voir Isaac partir de la région. Isaac est devenu puissant. Lisons ensemble Genèse, chapitre 26, versets 15 et 16. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech va dire à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Suite à la discussion, maintenant, Isaac va partir de la région, il va aller camper dans la vallée de Guérar, et la première chose qu'il va faire, c'est déterrer les puits de son père Abraham. Pour retrouver, je dirais, un éveil avec Dieu, il faut savoir revenir à la maison de prière. Allô? Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est faible. Une église qui se met à genoux est une église qui est forte. Je n'ai rien entendu. La première chose qu'on ne devrait jamais couper dans une église, c'est la prière. La première chose, votre devoir, c'est de venir dans vos réunions de prière. C'est la première clé d'une église qui va s'épanouir. Ça vous parle-tu un petit peu? On a besoin du ressourcement du cœur de Dieu. Il faut dire comme le psaume, « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Il faut retrouver l'eau du puits. Et Isaac a fait ces choses-là. Et verset 26, verset 18 et 19, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait, s'il veut survivre, qu'il doit creuser de nouveau, enlever la terre des puits. Il y a de l'eau dans le fond, mais dans la surface, c'est plein de sable. Il faut enlever la poussière, il faut enlever le sable, parce qu'en dessous, il y a de l'eau. Oh Lord, si nous voulons retrouver la restauration, la joie, le zèle, il faut que tu fasses comme Isaac. Trop souvent, nos puits sont sans vie. La vie chrétienne, avec le temps, je dirais qu'il y a beaucoup de laisser aller. On dirait qu'on a tout entendu, qu'on a tout dit, qu'on n'a plus rien apprendre. L'Église devient la routine du dimanche matin. Alors, soyez honnêtes, là. L'ennemi vient que pour mettre du sable dans notre puits, pour que tu délaisses ton puits. Les raisons principales pourquoi la flamme ne vient plus, c'est que nous n'entrenons pas notre puits. Quelle mouche m'a piqué ce matin? Je vous dis honnêtement, cette semaine, j'ai dit avec crainte et tremblement. Mais je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour plaire à celui qui m'envoie. Je suis là pour prendre position pour le royaume de Dieu. Je ne veux pas vous prêcher juste un bon message, ça ne change pas. Qu'est-ce qui change quand on est touché là? Et c'est ça mon cœur à matin. Seigneur, touche-le. touche l'esprit de l'homme. Et souvent, par notre manque de consécration, l'ennemi vient, il vient mettre du sable, et vous venez vous puiser, tout est sec. C'est le relâchement qui fait que notre vie n'est plus là. L'eau du Saint-Esprit est toujours là, est toujours rafraîchissante. Dieu veut toujours nous parler, mais ça, plusieurs ne réalisent même plus le besoin d'aller en prière. Je parle avec sérieux, là. C'est pas parce qu'il faut prendre 5 minutes avec le Seigneur, ça fait de toi un enfant de Dieu. On ne fait pas la prière juste par devoir, tu le fais parce que tu aimes Dieu. T'as une soif, une compassion de toucher le cœur de Dieu. Vous savez, plusieurs refusent d'aller à la source par manque de temps, par manque de fatigue ou par manque de soucis de la vie et on n'entretient pas. Puis l'ennemi ne vient que voler, premièrement, votre temps, il vient voler votre semence, il vient voler votre vision du royaume de Dieu. Pourtant, l'amour de Dieu en Jésus-Christ est toujours là. Déterrez, s'il vous plaît, ce matin, vos puits. Vous savez, je vais parler d'un texte qu'on aime moins. Moi, c'est un texte que j'aime le lire, que j'aime étudier, que j'ai pris du temps à étudier ce texte-là. Je l'ai prêché souvent. Vous savez, quand on parle d'Ézéchiel 37, on voit juste du jugement puis de la condamnation, pour qu'on est sec, qu'on est comme ci. Mais il y a d'autres choses en arrière de ce texte-là. Dieu a parlé de cette façon-là parce que Dieu aime son peuple. Puis j'ai enlevé tout esprit négatif face à ce texte ce matin. Pourquoi ce texte me parle? Si on fait le récit de l'histoire, le peuple de Dieu vit dans la rébellion. Le peuple de Dieu vit dans le péché. Le peuple de Dieu vit dans la désobéissance de la parole de Dieu. Ils vivent divisés entre eux. Ce peuple marche avec leur force, marche avec leur désir, sans que Dieu soit au centre de leur nation. Vivent dans l'idolâtrie, vivent dans le monde. Ils rejettent Dieu, ils rejettent leur appartenance avec Dieu. Ça, c'est le fond d'Ézéchiel 37. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu mieux, là. Aux yeux de Dieu, ce peuple est sec. C'est la dureté du cœur de l'homme qui s'est rebellé contre son Créateur. Et ce cœur-là doit changer. Vivre loin de la présence de Dieu, c'est mettre votre destinée en danger. Notre vie chrétienne doit obéissance à Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas tes idées. Ce qui compte, ce n'est pas ton œuvre. Ce qui compte, c'est l'obéissance à ton Dieu. Dieu recherche des adorateurs en esprit et vérité. Ce que je dis, en vrai, des vrais adorateurs, c'est des gens qui sont capables de se soumettre à sa volonté, puis d'obéir. Le mot adorateur, ça veut dire se prosterner à genoux, les mains allongées devant le roi. Les vrais adorateurs écoutent ce que Dieu leur dit. Ils se lèvent, ils mettent ça en pratique. Les cœurs d'adorateurs. Et Dieu recherche des cœurs d'adorateurs. Comme Abraham qui a offert à son fils, que Dieu dit, donne-moi ton fils, donne-moi qu'est-ce qui est le plus précieux. L'obéissance au maître. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ézéchiel 37. Et dans Ézéchiel 37, il reste juste des ossements secs. C'est sec, mais l'amour de Dieu est de restaurer son peuple, parce qu'il aime son peuple. Lisons Ézéchiel 36, 26, et je rentre dedans après. Regardez le cœur de Dieu. Comment que Dieu est amour? Là? Dieu n'est pas là pour... Il va mettre sa main quand c'est le temps de mettre sa main. Là, il le fait. 36, 26, je vous donnerai... Qu'est-ce que... Lisez-le en voix. Lisez-le vous-même, là. Est-ce que c'est le cœur de Dieu, ça? Allô? Est-ce que c'est le cœur de Dieu? De nous donner des cœurs nouveaux? Ça, c'est l'amour du Père. Dieu transforme le cœur. Donc, il veut qu'on apprenne à l'aimer, papa. Et on se retrouve maintenant dans la vallée de l'ossement, Ézéchiel 37, verset 1, verset 3 et 4. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et déposa dans une vallée remplie d'ossements. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Pose-toi la question. Dieu te donne une vision. Tu vois des paquets d'os avant toi, des squelettes. Il n'y a rien. C'est sec, c'est sec, c'est sec. Puis l'homme de Dieu reçoit la parole de Dieu puis il dit, « Tu penses-tu que ça va revivre? » Moi, j'aurais dit pareil comme Ézéchiel. Oh, toi, tu le sais, Éternel. Puis là, il a commencé à donner la parole. Tu t'imagines, asseyez-vous, mettez-vous dans le scénario de la vallée. Puis là, il commence à donner la parole. Clac, 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 un Volkswagen qui claque. Là. Clac, 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 clac. Puis les os se rapprochent. Clac, 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 clac. Puis le corps reprend. Hallelujah. Les os se replacent. La chair revient. Les nerfs reviennent. Hallelujah. Dieu veut restaurer son peuple et relever son peuple. Il dit prophétise sur la mort. Donne la vie à la mort. Oh, mes amis. Le prophète, il dit, prophétise, verset 4 sur ses os, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Dieu dit, parle à la mort, hallelujah. Laissez-moi vous dire, mes amis, verset 9 et 10, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Avez-vous passé des saisons sèches? Oui. Avez-vous passé des temps durs? Oui. Combien peuvent se sentir sèches comme ça? Soyez honnêtes, là. Moi, je les ai passées ces saisons-là. Je peux vous le dire, là, je me suis senti sec assez souvent. Il dit, prophétise selon l'ordre qui m'a été donné. Et l'esprit rentre en eux. Dieu veut redonner vie et mettre en nous un esprit renouvelé pour nous relever. Si nous voulons vivre un renouveau de l'esprit, il faut que le souffle de Dieu vienne. J'ai tellement besoin du Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de pleurer, d'avoir la présence de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, quand on vient à l'Église ou qu'on entend des temps de louange ce matin, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur, parlez en langue, donnez-lui... Louangez-le, hallelujah. Ce n'est pas de la routine, parce qu'il n'y a pas un dimanche qui est pareil. Il n'y a pas un dimanche matin qui devrait être pareil à l'Église. Tu sais, on commence à 10 heures, il faut finir à 10h30, il faut finir de prêcher à 11h, 11h30, puis à midi. Ce n'est pas ça, l'Église. Quand l'onction vient, ça bouge. Quand l'onction vient, c'est différent. Les gens dans la chambre haute attendaient une promesse, le Saint-Esprit. Vous savez, dans la tente, ça nous dit dans la Bible, tout d'un coup, le vent violent est venu, et tout d'un coup, le feu est rentré dans la place, et tout d'un coup, ils ont commencé à parler à trop de langues. C'était la promesse. Ils ont loué en langue, adoré, dans des langues merveilleuses de Dieu. Nous sommes, dis avec moi, l'Église militante remplie de l'onction du Saint-Esprit. Lis-le, je suis un peuple, une église militante remplie de l'onction de l'Esprit de Dieu. Dites-le! Dites-le! Prophétisez-le! Il doit y avoir des réactions à quelque part, là. Tout d'un coup, ce matin, que le Saint-Esprit nous visite, vous attendez depuis des années des promesses. Tout d'un coup, ce matin, tu reçois le baptême du Saint-Esprit et tu commences à parler. Tout d'un coup, ce matin, tu retrouves ton zèle. Tout d'un coup, ce matin, tu retrouves ta délivrance. Tout d'un coup, que tu retrouves ton zèle. Tout d'un coup, tu retrouves ton premier amour. Tout d'un coup, que tu retrouves les promesses de Dieu. Tout d'un coup, tu commences à te prophétiser. Tout d'un coup, qu'un souffle nouveau vient sur ta vie. Tout d'un coup, que Dieu répond à ta prière. Est-ce que nous allons limiter l'Esprit de Dieu? Allô? On est frileux. On veut ça comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tout d'un coup, tu as une parole de connaissance pour ta vie. Est-ce qu'on va dire, Seigneur, on ne veut pas de cela? On est-tu prêt à changer même nos programmes d'horaire d'église? Et vivre des cultes dans le miraculeux? Vivre des cultes dans la présence de Dieu? J'ai vécu des temps que j'ai eu à peine 10 minutes parfois à prêcher dans des églises à force que l'onction était présente. Moi-même, j'ai vécu des choses extraordinaires à travers l'onction de Dieu. Quand que Dieu nous touche ou quand Dieu visite une église, c'est plus la même église. Dis avec moi, je veux mon église change. Tu veux-tu que ton église change? accueille la présence de Dieu. Vive le miraculeux, c'est entrer dans la présence de Dieu. Je vais aller vite parce que le temps avance. Dans 1 Chronique 25, 3, je vous parle à cœur ouvert là, avec ce texte de Gédédum, fils de Gédédum. On va tout poser ça là, parce que c'est très bon pour mon articulation. Là. Et sous la direction de leur père de Gédédum qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer Dieu. La louange, l'adoration apporte la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai demandé ce matin, priez en langue. Vous êtes vivant. Est-ce que vous êtes vivant? Vous considérez-vous vivant? Vous respirez. T'as encore de l'air dans les poumons? Tu respires. Louez Dieu. L'onction prophétique, ça emporte quoi? Ça emporte, ça parle au cœur de l'homme. Pendant les musiciens jouent, l'adoration vient, ça l'édifie, ça l'exhorte, ça console, c'est emporté par le Saint-Esprit. Prenez le temps d'en rentrer dans la présence de Dieu pour voir le milieu prophétique se manifester. Nous sommes une église Pentecôte. Nous sommes l'église des derniers temps, maman. Je vous invite ce matin à retrouver sa présence. Parle en langue, laissez-vous diriger. L'Église du Seigneur, c'est lui l'architecte. C'est son œuvre à lui. Vivre dans l'esprit, c'est vivre aussi dans l'esprit de la prière. Vivre une vie d'adoration et de louange et d'obéissance à Dieu. Quand la colonne de nuée ou la colonne de feu se levait, qu'est-ce que le peuple faisait? Il se levait puis il suivait quoi? La colonne? Si la colonne arrive un jour, on va-tu se lever? On va dire, Seigneur, on n'en veut pas de colonne. Ou on veut rester sec, sans vie, juste heureux du dimanche matin. C'est pas ça, mes amis. Je crois de tout cœur. Je vais terminer, là, parce qu'il y en a qui m'ont dit, la moutarde m'a monté au nez, là. Je crois de tout cœur qu'il faut retrouver l'enfantement spirituel. Anne, qui ne pouvait pas enfanter, qu'elle est stérile, elle veut un enfant. Et elle n'a pas d'enfant, ça ne marche pas. Un jour, elle s'est fait violence. Et devant le prophète Élie, elle a commencé à prier, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à intercéder. Elle veut avoir un enfant. Et pendant qu'elle priait, le prophète Élie la regarde prier, puis elle pensait qu'elle était ivre. Et non, elle priait pour un enfant. Écoutez bien, il y a une parole qui est très forte, qui m'a toujours interpellé. Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Écoutez bien, avec le temps, comme chacun de vous, on apprend. Demandez en mon nom, c'est quoi la requête que tu veux? Appelez les choses par leur nom. Quand vous priez, soyez précis. Si vous voulez que vos requêtes soient entendues et approuvées, priez dans la précision de vos requêtes. Dieu désire entendre vos requêtes. Sois précis. Si tu veux un chat, demande pas un chien. Si tu veux un bessic rouge, demande pas un bessic blanc. Comprends-tu quand on parle de précision? Quand j'ai prié pour notre auto avec Manon, on voulait une Corolla 2020 de telle couleur. C'est ça qu'on voulait. On a prié, on est arrivé au garage, on a vu un auto. Manon a dit, c'est ça que je veux. Il dit, c'est ça qu'on a prié et c'est ça qu'on a reçu. Amen. C'est ça qu'on voulait. Combien de choses que j'ai voulu dans le ministère et que Dieu a accordé. La précision. Priez précisément. C'est quoi votre besoin? Il dit, alléluia, pensait qu'elle était ivre. Mais cette femme a eu un temps régaleux devant le Seigneur. Écoutez bien, regardez bien une prière. Qu'est-ce qu'elle a fait? 1 Samuel 1, 18, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Une prière qui a changé sa destinée. Une prière qui a eu une bonne odeur devant Dieu. Alléluia! Elle est partie rejoindre son mari. Quand ils sont rapprochés, Dieu a exaucé la prière. Elle s'est souvenue d'Anne qu'elle voulait avoir un enfant. Est-ce que c'était précis? Je veux un enfant. Je vais te le consacrer. Mettre à l'autel. Dieu a répondu. Frères et sœurs, ce matin, je vais terminer dans quelques minutes. Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas prier avec larmes pour voir de nouveau arriver dans l'Église. Est-ce que ça fait longtemps, frères et sœurs, qu'on n'a pas enfanté de nouvelles âmes? Est-ce que ça fait longtemps, frères et sœurs, qu'on n'a pas été en larmes pour retrouver l'amour entre nous? Combien ça fait de temps qu'on n'a pas prié en larmes pour retrouver l'unité, pour délaisser le passé, pour entrer dans une nouvelle saison? Combien de fois avec larmes qu'on n'a pas prié pour voir les dons spirituels se manifester dans l'Église, de voir des baptêmes du Saint-Esprit? C'est une bonne question, hein? Si votre cœur est chaud ce matin, vous allez revenir à la maison. Je crois de tout cœur que le message est prophétique pour vous. C'était clair dans mon cœur, c'était clair dans mon cœur. Je dis à mes hommes, cette Église, c'est ça, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle revienne à la source. Que le cœur de l'homme doit changer. Ce n'est pas ton Église, c'est son Église. Ce n'est pas toi qui la dirige, c'est lui qui doit la diriger. Moi, je suis porteur de vision, mais la vision que j'ai, Dieu me l'a donnée à moi. Alléluia, je dois être porteur de la vision que Dieu me donne. Ce n'est pas l'autre qui va le porter à ma place. C'est à moi de porter la vision que Dieu me donne. Et je suis appelé prédicateur de l'Évangile et je vais prêcher la vision que Dieu me donne. Le réveil qu'on veut vient avec des gens assoiffés. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Le psaume 68, 29. Nous sommes dans la fin des temps. La Bible nous dit que l'onction va être relâchée, Joël chapitre 2 et suivant. Ézéchiel 40, 47, qui nous parle que Dieu veut reconstruire son temple, que la gloire de Dieu doit revenir. Dieu veut que... Il veut être au milieu de nous. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Chacun a une idée comment que ça fonctionne. Ça ne marche pas. Acte 47, verset 1 au verset 12, ça nous parle que l'eau est sortie du temple, une rivière qui est sortie du temple. Puis à mesure que l'eau sortait, ça venait de plus en plus large. Ézéchiel 43, verset 3 et 5, lisons ensemble. Et puis je vais conclure avec cela. Il me fit traverser, verset 3 et 5, il me fit, je vais juste les petits bouts, il me fit traverser l'eau que j'avais de l'eau jusqu'à la cheville. Et il mesura encore 1000 coudées, et verset 4, traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'à la cheville, jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et verset 5, il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on pouvait traverser. Mes amis, ce matin, je vais conclure bientôt. Est-ce que notre niveau d'eau spirituelle est juste aux chevilles, juste aux genoux, ou juste aux reins, ça ne dérange pas trop? Ou qu'on veut rentrer dans la plénitude. Ça vous parle ça un petit peu, là? C'est quoi tu veux, là? C'est quoi qu'on veut comme Église? Je vous dirais que l'Église, elle est appelée aussi à sortir de ce monde. Elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle. L'eau qui est sortie du temple. Je désire de tout cœur attraper ce feu. Combien sont prêts à dire avec moi, là, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. J'ai besoin d'une consécration au matin. Je veux dire, moi, je veux retrouver mon zèle. Allô? Êtes-vous prêts à ça? Quand c'est le temps des appels, venez chercher. Venez chercher. Et les gens ont été vers le prophète Élisée pour avoir la bénédiction. Et je termine avec ce verset. Il dit, « Apporte-moi un plat neuf et mettez du sel. » Ils lui apportèrent. Il jetait vers la source d'eau. Il jetait du sel. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Écoutez bien, Élisée a apporté un plat neuf. Il dit, « On va repartir à nouveau. Emporte-moi du sel. » Et le sel, c'était connu comme un agent purificateur. Et le prophète Élisée a jeté l'eau, du sel dans l'eau. Et l'eau est devenue potable. C'est-à-dire que la vie de cette nation de Jéricho, elle pouvait revivre. Parce qu'elle était purifiée. Alléluia! Ils ont trouvé l'homme de Dieu qui était capable de faire la différence. Et Dieu vous recherche pour être la différence. La malédiction a été enlevée. La fondation de la rivière, elle est sortie. Ou partout que la rivière apportait, ça apportait de la vie. Parce que l'onction apporte la vie. Ou que de la mort, la vie revenait. L'eau est sortie du temps. Et quand nous sortons de... C'est vous l'eau du Saint-Esprit. Vous avez les paroles de vie. Alléluia! Je termine. Les apôtres, après un grand temps de paroles, ils sont fait dire... On ne veut plus que tu prononces les paroles de Jésus. On ne veut plus que vous parliez de Jésus. Ils ont eu des menaces, ils ont fait flageoler. Et ce n'est pas été facile, tu peux juste mettre le dernier verset, acte 4. Et les apôtres ont dit, OK, ils disent, OK, on comprend votre affaire. Est-ce que ces gens-là vont se laisser intimider? Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Allô? On continue un petit peu plus bas, verset 31-32. Pas grave. À la fin, ça nous dit que quand ils ont fini de prier, le lieu a commencé à shaker. Ils ont eu une autre visitation. Voulez-vous une autre visitation? Voulez-vous une autre visitation? Ou vous voulez rester dans le passé? Puis de vivre heureux, puis pas trop dérangeant, puis se de montrer des beaux petits chrétiens qu'on dérange pas trop, ou qu'on va être des dérangeants pour le royaume des ténèbres. Alléluia! Aller chercher des âmes qui se meurent, aller chercher des familles qui ont besoin de vous, d'emporter la guérison ou la restauration à un peuple qui a besoin. Alléluia! L'eau qui sort du temple. On va seulement ensemble ce matin. Je vais demander, si c'est possible, avoir un chant. Saint-Esprit vient. Si vous avez soif, de consécration ce matin. Le Seigneur, il dit, emporte-toi une petite bouteille d'huile. L'huile, ça représente la consécration. Quand on oignait les rois et tout cela, les grands et tout ça, on prenait de l'huile. Combien sont prêts à dire avec moi ce matin? Moi, j'ai besoin de me reconsacrer. Lève ta main très haut. Levez votre main ce matin. Soyez pas cheap avec le Seigneur, là. Alléluia. On fait de quoi? Venez approcher. Pendant qu'on va chanter un chant, alléluia, on va demander au Saint-Esprit combien... J'avais une parole le matin. Il y a quelqu'un qui a mal au dos ici ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui a mal au dos? Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Amen. On va prier avec ça. S'il y a d'autres personnes qui sont malades ce matin, on va prier pour que Dieu vous guérisse également. Sortez pas de ce lieu de la même façon que vous êtes rentré. C'est ça que j'ai prêché, là. Alléluia. Pendant qu'on va chanter, je vous appelle. Amassez-vous ce matin. On va faire l'onction d'huile. Je vais demander au comité, notre frère est là, Gaétan et tout ça, approchez Manon. On va prier avec vous. Soif de prière.